des bénévoles de l'équipe voilà, qui ont œuvré aussi pour que le côté matériel de cette soirée. Merci, merci beaucoup à vous. Voilà, et surtout merci à tout cas de nous consacrer cette soirée. Alors peut-être que, avant d'aborder les questions sur le bilan et les perspectives de Laudato Si, j'aimerais demander peut-être à chacun de vous de nous rappeler brièvement comment sont perçues et vécues la dimension écologique dans chacune de vos traditions spirituelles et comment sont abordés les défis de l'humanité face à la crise écologique et environnementale. Et peut-être que pour l'assistance, c'est peut-être par rapport à l'ISAM, on est peut-être le moins informé. Donc je propose peut-être que Bruno Guiderdoni voilà, commence cette présentation. Puis après, voilà, les uns et les autres prendront dans l'ordre qu'ils souhaiteront. Voilà.
Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom du Dieu unique, Dieu d'amour et de miséricorde. En général, l'intervenant musulman passe après l'intervenant juif et l'intervenant chrétien. C'est l'ordre chronologique, donc pour moi, c'est facile de dire « Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. » Donc là, je vais devoir commencer l'intervention. Et il me semble que la vision que les musulmans ont de la création et donc de l'écologie est assez voisine de celle que défendent les juifs et les chrétiens. Il y a bien sûr des différences dans nos théologies, mais il y a beaucoup de points communs. Et l'islam, évidemment, défend ce qu'on appelle un monothéisme absolu. Hein. Je pense que le judaïsme et le christianisme aussi sont des monothéistes absolus, même si parfois on ne peut pas le dire. Et ils ont donc ce rappel du Dieu unique, le Dieu de toute l'humanité, dont le nom arabe est Allah. Et Allah, c'est le nom arabe du Dieu unique, ce n'est pas le nom du Dieu des musulmans à l'exclusion des autres confessions. Et Dieu a de très nombreux noms. Il est à la fois totalement différent de ce que nous pouvons comprendre, imaginer, etc. Totalement transcendant et en même temps, il est secrètement présent. Il écoute, il voit. Il agit dans le monde et il nous parle à travers les prophètes, mais aussi par l'inspiration qu'il peut donner à chacune et à chacun d'entre nous. Et parmi toutes ces activités, toutes ces actions, Dieu est créateur, créateur des cieux et de la terre, et le Coran, qui se présente comme un rappel des révélations antérieures, donc de la révélation juive et de la révélation chrétienne, porte la mémoire de la création en six jours, et le septième jour, Dieu établit le trône et contemple la création. Dieu est donc créateur, créateur des cieux et de la terre, de l'immensité du cosmos, des plus petites choses qui sont présentes, et des choses les plus grandes, évidemment, des étoiles, du soleil, de la lune, des planètes, des animaux, des plantes, de tous les phénomènes cosmiques. Et assez rapidement dans l'histoire de l'islam, s'est développée l'idée des deux livres, l'idée qui est, je crois, présente aussi dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. De même que Dieu révèle sa parole par un message qu'il adresse à l'humanité à travers la succession des prophètes, il y a une histoire sacrée dans l'islam qui commence avec le premier prophète qui est Adam lui-même, Adam alayhi salam, notre Seigneur Adam sur lui, la paix, premier homme déchu, premier homme pardonné, premier prophète. Il y a toute une succession de prophètes, certains sont bien présents dans la Bible, hein, évidemment, Sayyiduna Isa alayhi salam, notre Seigneur Jésus sur lui, la paix, Al-Masih, le Christ, le Messie, est aussi mentionné comme une figure extrêmement importante et même centrale dans l'eschatologie islamique. Jusqu'au dernier prophète Mohammed. Donc il y a sur lui la paix et la bénédiction de Dieu. Ce sont des eulogies qu'on aime bien répéter parce qu'on a beaucoup d'affection pour les prophètes et pour le dernier d'entre eux en particulier. Donc il y a cette histoire sacrée et il y a donc les révélations et Dieu parle à l'humanité à travers les prophètes. Mais Dieu parle aussi à travers le cosmos. C'est-à-dire qu'il crée par la parole. Quand il veut une chose, il lui dit soit et la chose est, kun fayakun, hein, c'est un thème qui revient dans le Coran. Et donc chaque réalité du monde est en quelque sorte la parole manifestée de Dieu. bien évidemment, la contemplation du cosmos et la lecture des textes sacrés nous amènent à comprendre la même vérité, puisque Dieu est l'auteur de l'un et de l'autre, il ne peut pas se déjuger, se contredire. Donc l'étude du monde, l'étude même scientifique du monde, l'investigation du monde avec notre intelligence, nous amène à contempler la même vérité que celle qui se trouve dans les révélations, même si cette vérité, évidemment, se manifeste sous une forme différente. Donc les deux livres, hein, le livre de la révélation et le livre de la création. Toutes les choses sont importantes dans le livre de la création, hein, puisque toute chose est en quelque sorte une parole de Dieu qui manifeste certaines des qualités divines, et le Coran insiste sur le fait qu'il y a d'autres communautés que la communauté humaine, que les animaux, les plantes, les arbres, les oiseaux, les poissons, sont des communautés qui échangent entre elles, qui ont un langage que nous ne pouvons pas comprendre, sauf évidemment les mystiques et les saints qui écoutent le langage des oiseaux, justement. Et ces animaux, ces plantes, sont en adoration vis-à-vis de leur créateur. Et donc, il doit y avoir un respect profond pour les autres communautés. Un respect pour les animaux, un respect pour les plantes. Il y a un passage du Coran où il est dit contempler, je paraphrase, contempler les arbres fruitiers, etc. Et donner à l'arbre fruitier son droit quand vous cueillez des fruits. Le droit de l'arbre fruitier, quand on cueille des fruits, c'est de laisser des fruits sur l'arbre pour que l'arbre puisse continuer à se reproduire. Donc, il ne doit pas y avoir d'excès dans notre utilisation de la nature. Nous sommes ici pour utiliser la nature de façon minimaliste pour notre survie, mais pas pour abuser. L'être humain, créé à partir de l'argile et à partir du souffle, et je ne vais pas trop m'attarder dessus quand même pour pouvoir laisser bien sûr la parole aux autres intervenants, l'être humain, créé d'argile et du souffle de Dieu, est instauré comme représentant de Dieu sur terre, ou vicaire, ou régent, ou lieutenant. Ces mots sont des traductions approximatives de l'arabe « khalifa », qui a été décalqué en français pour dire « calife ». « Khalifa », c'est le successeur, le représentant, le lieutenant. Donc Dieu instaure un successeur ou un lieutenant ou un représentant sur terre qui est là pour gérer la terre comme un jardinier gère son jardin. Il a le droit d'utiliser les fruits, mais pas d'arracher les arbres ou de détruire le jardin. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Et il y a ce récit dans le Coran, qui est connu aussi par les traditions juives et chrétiennes, du scandale que la création d'Adam suscite auprès des anges qui voient très bien ce qui va se passer. Tu vas créer quelqu'un qui va semer le désordre sur terre et qui va verser le sang. Et Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas, parce que Dieu a confiance dans l'être humain, dans le projet qu'il a pour l'être humain. Et c'est ce récit-là, finalement, qui fonde la relation que nous devons avoir vis-à-vis de la création. Nous sommes ici avec une responsabilité vis-à-vis de la création, une responsabilité vis-à-vis des autres communautés, et nous ne pouvons pas détruire ces communautés en rompant cet équilibre qui a été instauré et voulu par Dieu. Et, donc il y a cette idée très profonde de l'équilibre à trouver dans notre relation avec la nature, cet équilibre suscité par l'humilité que nous devons avoir, parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes donc des lieutenants, des régents de la nature, nous ne sommes pas les propriétaires, et c'est donc cette vertu cardinale de l'humilité et de la mesure qui doit régir notre relation aux autres communautés créées. Et le modèle de cette attitude, c'est la sobriété du désert. Le désert, où finalement la puissance divine apparaît dans toute sa force, hein, est le modèle de vertu que l'être humain doit pratiquer. Le respect de la nature, la compréhension de notre petitesse vis-à-vis des éléments, la sobriété, la beauté des oasis qui sont comme des manifestations de la miséricorde divine quand l'eau surgit de la roche et à ce moment-là les plantes poussent, tout ça, ce sont des expériences du désert qui doivent régir notre relation. Et je termine en disant que Ibn Khaldoun, le grand philosophe et historien, voyait dans la civilisation la manifestation dans la ville de la culture du désert. C'est-à-dire que la vertu vient du désert, et quand elle arrive dans la ville et elle s'épanouit cette vertu à travers les sciences et les arts, elle devient civilisation. Mais le problème, c'est qu'au bout de quelques générations, la ville affaiblit nos vertus, et à ce moment-là, cette civilisation entre en décadence. Et c'est malheureusement peut-être ce que nous sommes en train de vivre actuellement, une civilisation de la décadence, où finalement la consommation, le consumérisme devient le seul horizon. Et cet horizon se fait au détriment, bien sûr, de la nature. Voilà.
Je pense que je vais essayer bien de prendre la suite. J'aime bien qu'il y ait une main.
Merci. Je vais tenter d'enchaîner sur le propos de mon frère Abdelhak pour énoncer un verset un peu tragique, mais dehors de la tragédie, non pas sans doute du drame. C'est un verset extrait du 9e chapitre du livre de la Genèse, je me tourne vers Jeanne, où après que l'humanité ait été décimée par le déluge à cause de ses fautes et que ses rescapés sortent en trois temps de l'arche, eh bien il va y avoir un nouveau pacte avec un nouveau contact avec une création qui n'est pas nouvelle, mais qui est offerte dans son état de rescaper elle-même du déluge. Et c'est la première fois qu'il est dit que le monde animal, et avec lui le reste des éléments, va considérer l'homme avec un effroi. C'est pour la première fois que l'homme fait peur au reste de la création. Il est restauré, il a reçu la visite de la colombe, enfin de l'oiseau avec la palme d'olivier, qui est tellement porteuse d'espérance et de projets et de paroles, au sens où le jour, l'acte et la parole sont liés, et il est devenu une cause d'effroi pour le monde animal. Nous est indiquée l'invitation et la parole qui était inscrite dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, selon lesquels l'homme est créé le sixième jour avec un miroir à deux visages, celui d'être l'image et de la ressemblance, l'image qu'il est, la ressemblance qu'il doit acquérir, qu'il va acquérir par le travail sur la création, une création qui était à l'époque pacifiée, et le travail intérieur qui est celui de la multiplication. Et avec une phrase qui est souvent très décriée en Occident, et qui est pourtant, surtout quand on la reçoit en hébreu, extrêmement, extrêmement porteuse, qui est la fameuse expression « multipliez et soumettez la terre ». En fait, le multiplier s'adresse non seulement à l'humain, à ce stade-là, dans ce jour-là, mais aussi à l'ensemble des autres règnes. Et la soumission a la même force que les termes que l'on retrouvera dans les psaumes quand on parle des craignants Dieu ou des serviteurs, de celui qui s'efface pour découvrir quelque chose qui n'est autre que lui-même, mais qui doit devenir par le chemin d'une rencontre, par ce que l'on appelle l'alliance. Et dans le 9e chapitre de la Genèse, nous n'en sommes pas là. L'homme est remis dans une situation où il fait peur. Le prophète Isaïe déjà nous rappelle que tout est possible par la grâce et par le chemin du repentir, puisqu'il nous dit dans son, je crois, le 11e chapitre du livre d'Isaïe, que dans le temps où l'homme accomplira ce que saint Basile appelle son ministère de mikrotheos, de petit Dieu, non pas qu'il devienne un co-créateur, tout ça ce n'est pas l'objet, mais qu'il reçoive comme gardien de la création la plénitude des énergies divines par le salut. Et cette réception et cette rencontre Le prophète Ésaïe nous dit, tu as fait peur un temps, et pourtant, quand les temps seront accomplis, au-delà même des animaux, les montagnes danseront. Elles danseront tellement bien que les arbres applaudiront. Tel est aujourd'hui, pour nous autres et les baptisés, je parle aux chrétiens, et les hommes et les femmes sur un chemin de foi, en tout cas de travail, car nous sommes créés aussi pour ce travail de multiplication des états de l'être qui nous rendent capables d'acquérir ces énergies et de découvrir en plénitude le mot qui nous est révélé par Abraham, Isaac et Jacob, et pour nous chrétiens, en Jésus-Christ, mort et ressuscité, l'amour. Dans ce chemin, le prophète Isaïe, d'ailleurs, dans ce chapitre, je crois qu'il le termine, avec un clin d'œil qui est commun à beaucoup d'éléments de la culture sémitique. Il dit, cet amour qui sera manifesté sera aussi fort et aussi dense que toute l'eau qui remplit le fond des océans. Ça me fait penser, Abdelhak, à une sourate, je crois que c'est la sourate Al-Haq, Al-Kaf, pardon, la caverne. Pour nous autres chrétiens, ça nous renvoie dans le Synaxaire au dormant d'Éphèse. L'antépénultième, je pense, verset nous dit « Les mystères de Dieu et de sa création sont tellement vastes que même si l'on coupait l'ensemble des arbres pour en faire des crayons et si l'on couvrait les océans d'encre, eh bien, l'océan serait asséché avant qu'on ait pu terminer la rédaction de cette action de grâce. » Et qui nous dit « Oh, l'eau, c'est un élément qui est très fort. » me dit en tant qu'orthodoxe quelque chose qui est primordial dans ce qui scande notre année liturgique et les années qui composent nos vies. La liturgie est très, très forte. Elle est, chez les orthodoxes, toute la relation à la nature aussi, à la création, à travers la nature, nature et création ne sont pas tout à fait la même chose, il y a beaucoup de jeûnes, beaucoup d'abstinence, mais qui sont vécues d'une manière extrêmement respirante, avec un temps, le moment où on s'abstient des aliments carnés, des aliments laitiers, de certains produits particuliers que l'on n'associe pas. Et tout ça nous dit que chaque jour est un jour nouveau et un jour différent. L'eau a une place forte. Vous parliez tout à l'heure des oasis, parce que tant d'espérances et de conflits sont reliés dans l'historiographie de la pauvre humanité à leur relation à l'eau. Nous autres, nous la bénissons une fois l'an, dans le temps qui est celui de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la fête de la Théophanie. Et il y a une grande prière qui est une véritable anaphore qui nous dit tout ce que nous sommes et tout le regard que Dieu a sur nous et qui nous rappelle que nous sortons de la fête de la nativité. Vous parliez des astres un instant, et il y a une narration, il y a une phrase qui dit du quatrième mage, qui est Jean le précurseur, Jean le Baptiste, qui est le quatrième mage qui sait regarder l'étoile, non pas en scrutant l'étoile comme si elle était Dieu elle-même ou un démiurge ou un esprit des éléments, mais une lumière qui nous dit tellement de choses. Et en regard, le Tout-Puissant, celui qui est assis sur les chérubins, qui scrute les profondeurs de la terre et les profondeurs des eaux. Et là, cette phrase pour nous autres, dans la prière, dans la consécration des eaux, nous dit deux choses. La première, c'est que dans ce temps où nous célébrons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, la nature blessée par la faute originelle, blessée par les mésalliances de la part de l'humain en tant que gardien, elle est en quelque part visitée, presque complètement restaurée, même si elle restera comme l'humain, comme dirait l'apôtre Paul, dans les gémissements, dans l'attente des fins dernières, c'est-à-dire du temps qui va, après la résurrection et la Pentecôte, vers la paroissie que nous vivons, catholiques et orthodoxes, et peut-être luthériens, dans la célébration de l'Eucharistie de l'Église sacramentelle, et dans ce temps tout à fait singulier. Et au-delà de la réconciliation par la visite par le Christ, celui qui pour nous est la pureté par excellence, qui va accepter le baptême dans une eau qui est bien moins pure que lui-même, qui se fait tout petit. Vous parliez tout à l'heure de l'humilité de Dieu. C'est important en écologie. de rester devant la création, de tenter d'être un peu, sinon à l'image, du moins dans l'obéissance du sillon de l'humilité de Dieu. Jésus, avant d'être baptisé, il était dans une foule éparse, extrêmement compacte. Personne ne l'a reconnu. Ils avaient plus à faire avec le précurseur lui-même et peut-être avec les anges qu'ils savaient présents, même s'ils étaient dans le monde invisible. Et tout d'un coup, eh bien, les yeux s'ouvrent et celui qui est le seul hors du péché est fait péché pour nous dans ces eaux. Et là, il y a un signe qui est extrêmement intéressant, c'est, et que nous reprenons dans la prière, qui fait partie déjà du registre des psaumes, c'est que le Jourdain retourne en arrière. C'est un phénomène d'ailleurs qui scientifiquement pourrait être abordé. Nous n'en parlons surtout pas aujourd'hui. Mais pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport à notre propre vie et à notre relation aussi avec les autres mondes. Revenir en arrière, c'est concevoir la vie non pas comme une fontaine d'eau vive qui est quelquefois comme dans la sortie du désert, que les eaux de Marat, de l'amertume, quelquefois quand on s'est frappé à la droite du temple, cette foi unique et celle du salut, à savoir l'eau donnée par le Christ ressuscité, mais déjà dans la coopération divine, celle qui nous invite à revenir vers la source, revenir vers une source au-delà d'où, au-delà du fond de nous-mêmes, au-delà où quelquefois se trouvent les ténèbres, mais où Dieu est présent et que la visite des eaux nous annonce comme étant celle que le Christ va connaître au moment de la résurrection. Et pour terminer, ce mouvement qui est de retour vers les eaux, vers la conversion, pas seul mais avec le Christ qui a fait ce même cheminement, il est couronné par la prophétie du prophète Daniel dans son chapitre 3, où il reparle lui aussi, où il convoque le Dieu qui est assis sur les chérubins, et il poursuit en disant, et désormais, fontaines, eaux, neiges et glaces, arbres, tous les esprits qui sont sous la terre, tous les rochers, bénissez, bénissez, bénissez le Seigneur. Ce chemin de conversion nous permet non plus de faire peur à la création, mais il nous invite à ordonner à la création, avec nous, de bénir le Seigneur, celui qui règne sur les chérubins, celui qui est protégé par les séraphins aux six ailes, et celui qui est heureux et nous confère sa joie parfaite lorsqu'il demeure dans notre cœur, et qu'il achève en nous et à travers sa création la plénitude de sa révélation jusqu'au jour de son retour qui est déjà là, puisqu'il est celui qui revient dans la gloire jugé dans les vivants et les morts, pas dans le futur, dans du temps qui vient, mais dans le temps présent. Merci.
Merci beaucoup à vous deux. Je crains que je suis avec trois hommes très spirituels et du coup je vais être beaucoup plus terre à terre quelque part. J'ai même pris quelques notes avant de venir, vous m'excusez si je regarde de temps en temps mon papier. En venant ce soir, j'ai essayé de penser à trois choses. À la célébration, parce que nous célébrons aussi les 10 ans de Laudato aussi. Ce soir, où nous marquons cela, mais nous marquons aussi, je dirais, l'engagement des églises et des religions dans l'écologie, dans la protection de la création. Et je dirais, c'est une célébration œcuménique, profondément, et c'est aussi une célébration prophétique. Et ces deux choses sont difficiles. Je remonte à la première fois, et peut-être aussi la dernière fois que j'ai repassé les chemises de mon mari. Il n'était pas encore mon mari à ce moment-là. Et on s'est engueulé pour la toute première fois aussi. Et mon mari partait pour l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Vancouver en 1983. Et lors de cette assemblée, quelque chose a été voté. Ce n'était pas voté très facilement, mais c'était voté par les différentes églises membres du Conseil œcuménique des Églises. L'Église catholique n'est pas membre, mais était présente lors de cette assemblée. Et il s'agit d'un parcours qui s'appelle le processus conciliaire. Ce n'est pas aussi sympa que la date aussi, hein, mais le processus conciliaire pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Et ce processus-là a particulièrement eu écho dans un premier temps en Europe, et a mené à ce qu'on appelle la première assemblée œcuménique européenne à Bâle, en Suisse, en 1989, avant la chute du mur de Berlin. Et ce processus Justice, Paix, Sauvegarde de la création, quand, dans sa version anglaise, on parlait non pas de la sauvegarde de la création comme en allemand ou en français, on parlait à l'époque de Integrity of Creation, l'intégrité de la création. Et cela a créé une tollée, en particulier chez certains protestants, parce que comment est-ce qu'on pourrait, on va aller vers une théologie naturelle, catholique ou quelque chose comme ça. C'était très compliqué à l'époque. Mais ce processus était très important parce que cela rassemblait des chrétiens autour de ces thèmes. Et c'est très important, je pense, de faire valoir cela, parce que c'est de ces rassemblements qu'est sorti finalement ce qui est devenu finalement le temps pour la création. C'est à Sibiu en 2007, hein, lors de la troisième assemblée œcuménique européenne, que finalement les délégués ont tous dit « oui, nous sommes d'accord d'avoir le temps pour la création du 1er septembre pour honorer l'engagement orthodoxe et puis pour dire voilà c'est la première journée c'est le premier jour de la nouvelle année liturgique orthodoxe pour honorer aussi tout l'engagement du patriarche actuel mais aussi d'autres patriarches avant. Voilà exactement. Et aussi d'accueillir François, le Saint François qui le 4 octobre qui est la date du Saint François qui est un saint très œcuménique et accueilli dans toutes nos églises, je dirais même dans les églises les plus protestantes, parmi les évangéliques et autres. Je pense que c'est important. C'est important de dire ça peut-être dans un lieu plus catholique. Ce n'est pas le pape François qui a mis en route le temps pour la création. C'est quelque chose qui est venu depuis la base et aussi depuis ces gremiums un peu pénible parfois, hein, j'ai vécu et travaillé là-dedans, je sais de quoi je parle. Mais je pense que ça, c'est important. Ce n'était pas un temps confortable pour les personnes qui ont fait ça. C'était vraiment un travail à longue haleine, et ça reste aussi un travail à longue haleine, d'essayer de convaincre des personnes. Et s'il y a une personne qui me vient à l'esprit, cette personne s'appelait Lucas Fischer. C'est l'ancien directeur de Foi et Constitution au Conseil œcuménique des Églises. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup œuvré derrière les scènes pour que cette décision de mettre en place ce temps pour la création puisse avoir lieu. Et en France, en 2007, il y avait très peu écho de ça. Et j'étais en train de me dire, Laudato aussi, où étais-je ? Le jour où cela est venu, j'étais à la conférence des évêques de France, les conférences des évêques catholiques, et j'ai reçu l'encyclique sur une petite clé USB qui était en forme de clé. Je l'ai encore, c'est bien. Et j'ai pu aussi voir ce que cela a changé, mais comme toute parole prophétique, cela a aussi rencontré tout de suite de l'opposition. Et cette opposition, je l'avais déjà vécue parce que nous étions en 2015, nous étions dans la préparation de la COP 21 à Paris. Et nous étions déjà au niveau œcuménique très engagés dans ce processus. Et je peux témoigner, je suis actuellement accompagnatrice spirituelle d'un groupe local des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais à l'époque, le représentant national, lors de nos rencontres, a quitté la réunion en disant « mais on ne peut pas souscrire à ce qui est là ». Du coup, et aujourd'hui, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont aussi tout un parcours qui est autour des questions écologiques, autour de, non pas seulement de Laudato aussi, mais aussi Laudate Deum, etc. Je pense que c'est important de noter qu'il y a eu du changement. Et aussi au sein de ma propre église. Ouh. j'ai découvert en arrivant en France, après, ou dans mon église d'origine en Angleterre, ça allait de soi, justice paix, integrity of creation, et puis aussi après un parcours en Allemagne de l'Est, où en face du séminaire à Wittenberg, dans la ville de Martin Luther, il se trouvait déjà un centre, dans l'Allemagne de l'Est communiste, il se trouvait déjà un centre des églises protestantes pour l'écologie, pour la sauvegarde de la création. Ça m'a beaucoup impressionné, surtout j'étais pasteur en paroisse dans une paroisse qui était dans une usine chimique à l'époque. Du coup, cela a eu un impact sur moi depuis très très jeune. Et je pense que il est important de dire que en 1989, bon, des personnes qui sont ensuite devenues présidents de notre église, personnes comme Laurent Schlumberger, qui est un ancien président de notre église en France, ils ont ridiculisé ce processus conciliaire pour la justice, la paix, la sauvegarde de la création, parce que c'était imprononçable. Et je suis d'accord, hein. Laudato aussi, c'est nettement plus facile à comprendre, beaucoup plus facile à comprendre. Mais je pense que c'est important de savoir que c'est un processus de transformation qui est en cours, encore en cours, et qui que je vis aussi en paroisse. On n'est pas, et je pense que c'est très important de dire, si je dis célébration œcuménique et prophétique d'un côté, je dirais aussi il faut savoir vivre avec l'épine dans la chair de ce que cela représente pour beaucoup de voilà, des personnes dans nos églises. C'est pas seulement quelque chose de facile à accepter dans toutes nos religions, parce que nous sommes des êtres humains et nous défendons notre beefsteak. Vous avez parlé de la peur des animaux envers les humains dans la Genèse. Quand j'ai fait une étude biblique dans mon ancienne paroisse, pas dans celle-ci, j'ai essayé de dire, très probablement, on ne mangeait pas de viande, n'est-ce pas ? Très, très certainement pas. Mais mes paroissiens étaient horrifiés, pas de beefsteak, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire voir. Et je pense que, du coup, moi je salue vraiment le courage du pape François à faire cette encyclique. Mais je sais aussi combien nous, dans les autres églises, les personnes qui étaient très engagées dans ce processus autour de la COP21 à Paris, mais aussi dans les COP avant, où les églises ont été présentes. Hein. Mon mari a été à la première COP, je pense, la première conférence des parties autour de les questions de l'environnement. Les églises ont été présentes vraiment dès le départ de ces processus. Et il ne faut pas oublier ça, mais il ne faut pas penser que nous sommes tous d'accord. Nous avons besoin d'avoir les discussions difficiles et de vivre avec cela et de passer par les étapes difficiles. Notre Église protestante unie de France a eu un synode autour des questions écologiques et de développement durable, etc. Ce n'est pas toujours très facile à appliquer en paroisse, ce n'est pas exemplaire tout le temps, mais ça contient des choses dont on a parfois besoin. Si vous avez besoin d'une nouvelle chaudière, voilà quelque chose, certains éléments auxquels vous pouvez penser, et cela est mis à jour. Voilà. Je vais arrêter là pour l'instant, mais je passe à plus de spiritualité.
C'est pas, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les trois de ces premières interventions, et avec lesquels je me sens tout à fait en face, ce que vous avez dit sur le Dieu créateur, ce que vous avez dit aussi dans votre grand parcours biblique. Peut-être que moi, je ne vis pas la prise en compte progressive du souci écologique sur un mode conflictuel. Il peut y avoir des débats, parfois des débats tendus sur des attitudes précises, j'y reviendrai, à aborder par rapport à telle ou telle réalité économique. Mais moi, j'ai le sentiment plutôt d'une sorte de développement homogène, d'approfondissement, au cours du temps, d'une théologie de la création qui est présente de manière magnifique chez les pères de l'Église, qui s'est incarnée aussi dans l'histoire de l'Église, en particulier dans la tradition monastique, dans la manière de faire fructifier la terre tout en la respectant, et puis qui trouve évidemment, j'y reviendrai avec saint François, un témoin tout à fait impressionnant, et puis qui, dans l'histoire plus récente, est entré progressivement, s'est invité dans la doctrine sociale de l'Église de manière progressive et attentive. Donc vous savez que la doctrine sociale de l'Église, qui est déjà présente chez Jean Chrysostome, avec son souci des pauvres, inséparable de celui du Christ en son Eucharistie en particulier, a trouvé quand même son acte de naissance plutôt moderne avec Léon XIII en 1891, avec l'encyclique Rerum Novarum, sorte de réflexion chrétienne sur la révolution industrielle. Et vous savez que le pape Léon XIV a relié le choix de son nom au défi nouveau pour la pensée sociale chrétienne, comme on dit aux EDC, pour avoir une formation plus écuménique, toutes les questions nouvelles traitées notamment au Sentier de Chardin, de société du numérique, de l'intelligence artificielle. Et dans ce grand travail de pensée sociale chrétienne, les questions environnementales sont entrées progressivement à mesure que, notamment, la révolution industrielle les rendait plus cruciales. Et tout n'a pas commencé avec François. Jean-Paul II a déjà annoncé pas mal de choses sur ce domaine-là. Quand elle a été publiée au milieu des années 2000, ce qu'on a appelé compendium de la doctrine sociale de l'Église, une sorte de synthèse de la pensée sociale telle qu'elle s'est construite, il y a un chapitre important concernant le rapport chrétien à l'environnement. Benoît XVI aussi, dans son encyclique sociale, l'amour dans la vérité, donne de l'espace à cela. Et donc, Laudato si arrive comme une étape à l'intérieur de ce développement progressif de l'attention aux questions écologiques. Et vous le disiez, Jane, que tout ne vient pas d'en haut, mais c'est plutôt de la base que jaillisse quelque chose. Mais précisément, le travail, je dis magistériel au sens large, parce qu'on peut le dire les uns et les autres, dans les différentes églises chrétiennes, ce n'est pas d'étiqueter des vérités, mais plutôt d'authentifier des mouvements qui grandissent dans le peuple de Dieu, de discerner par rapport aux expressions de ce que nous appelons nous le sensus fidei. Alors, de fait, il y a la référence à François d'Assise qui est importante. C'est Jean-Paul II qui l'a proclamé saint patron de l'écologie. Et évidemment, François est une figure particulièrement universelle par sa proximité avec Jésus, dans son rapport avec le sultan, évidemment. Et puis de la manière dont il est vénéré en Orient, en Occident, et où il a beaucoup à nous dire. Alors, autour, parfois, d'un contresens, quand même, qui est de limiter François à un ami des oiseaux, alors qu'il ferait du coup du souci écologique quelque chose d'un peu marginal, voire anecdotique. Alors que c'est beaucoup plus profond. En fait, c'est un rapport au Christ, au mystère du salut, de l'humanité qui a besoin de guérison, que quelque chose va être transformé en lui et par lui dans l'Église de son temps, et qui va s'exprimer par un rapport renouvelé au cosmos. Donc il y a vraiment, la question du rapport de saint François à la nature, elle n'est pas immédiate chez lui, ce qui en ferait un peu quelque chose du folklore franciscain. C'est quelque chose qui est beaucoup plus radical et profond parce que ça vient de son rapport avec Dieu. Et en fait, c'est comme cela que saint François est à la fois l'homme de la paix, du dialogue interreligieux, de l'environnement, parce que c'est la manière dont quelque chose au plus intime de lui-même a été transformé. Il faut se rappeler qu'il vit dans une époque aussi où de guerre entre les cités-états d'Italie, il a été lui-même prisonnier, il a fait la guerre, et donc tout se tient déjà, j'y reviendrai peut-être quand on parlera directement de la date aussi, dans la vie de saint François. Et puis, c'est là où nos amis
réformés peuvent vibrer aussi à l'hymne de louange de François, qui avait son titre à la date aussi. C'est évidemment ce qui nous est donné dans les Écritures qui s'exprime à travers là. Parce que le Cantique des Créatures de ce François n'est qu'une relecture du Cantique des Trois Enfants dans le livre de Daniel que vous avez évoqué, et qui est très très important dans la liturgie catholique, puisque tous les jours de fête, nous chantons à l'office du matin le Cantique de Daniel. Et au point que de temps en temps, j'entends des jeunes prêtres me dire « c'est fastidieux, toute la semaine de Pâques, vous chantez la neige, le soleil, bénissez le Seigneur ». Eh bien oui, mais il faut se demander pourquoi. Et finalement, ça revient très souvent, je pense que ça revient pratiquement, disons, un quart des jours de l'année, où nous chantons le Cantique de Daniel. Et derrière cela, c'est pas de la naïveté, c'est plus de très profond, en fait, dans notre identité de créature, appelée à glorifier Dieu ensemble et à nous laisser transformer par lui. Alors, Jane, vous avez dit qu'il y avait un sujet écuménique et prophétique, et je souscris bien sûr à ça. Et très clairement, l'Église catholique a été puissamment stimulée, en particulier par les patriarches écuménique de Constantinople, patriarche Bartholomée en particulier, et peut-être même aussi de façon beaucoup plus ancienne par des expressions de la liturgie byzantine. Tout à l'heure, en célébrant la messe, j'ai pris la prière eucharistique numéro 4, qui est inspirée d'une anaphore byzantine, et je m'étais demandé, comme on se demande en célébrant la messe, laquelle des quatre prières eucharistiques je prendrais. D'un coup, je me dis, bien sûr, c'est la quatrième qu'il faut prendre. Et il y a beaucoup d'expressions qui expriment de façon très forte et très belle notre rapport à la création, qui est en fait symptomatique de notre rapport à la vie et à Dieu en général. Et je pense que c'est ça qui est le plus décisif pour nous aujourd'hui, c'est que si nous avons un rapport de prédation à la création, alors nous ne pouvons pas être des artisans de paix et des artisans de charité. Et donc nous avons sans arrêt à nous laisser convertir de ce qu'il peut y avoir de prédation spontanée dont l'humanité est blessée pour entrer dans une logique de respect de la création, de fraternité et de service de la paix. Alors j'ajouterais à la dimension écuménique et prophétique la dimension, disons, missionnaire. Parce que aujourd'hui, il y a dans notre société hyper sécularisée, et nous sommes tous les quatre face à cette situation de sécularisation, il y a une sorte de rentrée du questionnement éthique et spirituel par souci écologique interposé. Et du coup, c'est quelque chose que nous avons à prendre très au sérieux, parce que c'est un lieu de contact avec la société sécularisée, un lieu de transmission de l'espérance qui, d'une manière ou d'une autre, nous anime. Alors on pouvait le dire, par exemple, pour le rapport des jeunes à la question du sens de la vie. Et moi, je termine par là, je dois le dire par rapport, disons, à la relation entre éthique et politique. J'ai eu dans ma vie de prêtre à beaucoup réfléchir et parfois travailler à cette question du lien entre foi et politique. Et j'ai été frappé de voir que beaucoup de politiques qui avait un rapport soit exclusivement partisan, mais quand même aussi, disons, technique et pragmatique à la recherche de la justice et de la paix, en fait, par la prise au sérieux des questions écologiques, se sont reposés la question éthique. Et voilà, dans un climat, notre réunion de ce soir le vit de manière emblématique, de très graves crises du politique dans l'ensemble des sociétés, je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension missionnaire et la dimension politique de la question écologique, parce que c'est aussi un lieu où les églises, les religions peuvent contribuer à réenchanter un politique qui en a bien besoin.
Merci à tous quatre. Moi, j'ai envie, après ces deux dernières interventions, de me tourner peut-être vers Denis, vers Abdallah, pour leur demander finalement comment dans leur tradition, Laudato Si a été reçu, perçu, comment, qu'est-ce qui préexistait ou pas avant, et puis peut-être, est-ce que ça a inspiré l'écriture du document qui s'appelle Al-Mizan, donc une alliance pour la paix, qui est parue en février 2024, je crois. Je ne sais pas qui veut commencer.
Merci. Je dirais que la réception de Laudato Si, j'ai vécu en terre orthodoxe native, en Roumanie, dans le fait monastique, dans des périodes qui étaient très tumultueuses, puisque c'était encore les époques de l'époque du communisme, où il y avait des destructions d'églises, des isolements des monastères, des persécutions de nos évêques, du clergé, où la vie était néanmoins relativement possible, et où, vous parliez, Monseigneur, tout à l'heure, des monastères, nous étions des espaces de formation, d'accueil, de paix, de refuge, et aussi de référence vis-à-vis de la société, des villages ou des quartiers. Le pouvoir communiste a eu du mal à détruire, par exemple, les paroisses, ce qu'on appelle les métaux qui ont les paroisses monastères. Il y a eu des tentatives, alors elles étaient entourées de murs, voilà les murs que condamnait avec justesse le pape François. On ne construit pas les murs lorsqu'on est chrétien. Là, nous étions entourés de plus en plus de murs, plus en plus hauts, plus en plus contigus, mais les espaces sont restés vivants et il y avait, sans paraphraser l'apôtre Paul, on nous prétend mort mais nous en nourrissons beaucoup, mais il y avait aussi de la nourriture terrestre qui était vectrice vis-à-vis de populations vulnérables, fragilisées à tout point de vue, moralement, socialement, et sur les critères aussi de la perduration de l'engagement dans la foi, souvent véhiculé par les personnes plus âgées, donc avec des notions de conflit intergénérationnel qui avaient complètement sauté et qui rebattaient le concept de la fragilité. Je parle de la fragilité parce que le monde sécularisé dans lequel nous sommes en Occident, et maintenant dans le monde globalisé, dans le Nord en tout cas global, est un monde qui génère de la fragilité, de la vulnérabilité, de l'isolement, surtout à l'heure du numérique et où tous les systèmes d'information sont à la disposition, où on cherche comment faire pour protéger nos enfants et nos petits-enfants de la pollution par l'accès à une information qui est celle du temps liquide. C'est-à-dire, le politique, Monseigneur, il est dans le court terme, mais la sécularisation, elle nous adresse le temps liquide, où il n'y a même plus de temps. Alors que le fait religieux et l'écologie aussi, nous en faisons témoignage, fait partie d'un temps plus long, un peu celui que nous rencontrons dans le monde scientifique, et qui demande de la patience et qui a des racines sans doute plus profondes. En Roumanie ou en Ukraine, à l'époque du communisme, la terre était respectée, elle produisait, nous étions loin dans les espaces religieux du productivisme à la soviétique, et il y avait un souci implicite de la préservation du capital de la terre. Je n'ai pas un modèle, mais en tout cas, il a été remis en question à partir du moment où les prétendues révolutions ont rabattu les cartes et ont créé davantage de riches et davantage de pauvres. Hein. C'est ce qu'on appelle les pays à ressources intermédiaires. Dans le monde orthodoxe est très, très secoué par les conflits. Je remarque qu'il y a eu des voix extrêmement sonnantes dans le monde orthodoxe qui ont plaidé pour le respect de la nature et le respect avec un grand R cette fois-ci de la création dans des contextes où il y avait en plus les conflits. Je pense à la Syrie, au Liban, à Mgr Ignace IV d'Antioche qui a été peut-être le précurseur de sa sainteté Bartholomé Ier qui est vraiment le chantre d'une certaine plénitude de l'écologie intégrale, je dis le mot, puis des gens comme Monseigneur Silouane qui a succédé sur le trône du Mont-Liban à Monseigneur Jean, et qui ont, qui ont dit dans des endroits où non seulement il y a la guerre, non seulement où il y a la vulnérabilité, mais c'est là qu'on rencontre les écocides. Le Liban, je signalais à l'instant, est le modèle en termes de géopolitique environnementale d'écocide. La Kadisha, la vallée Sate, elle est complètement empoisonnée par la déforestation, par des cultures absolument absurdes et de la pollution par des pesticides et des fongicides. Et de là s'élèvent des voix qui restent fécondes et qui font que Laudato Si, il me semble que nous l'avons reçu presque par porosité. Alors, l'enseignement de Sa Sainteté Bartholomé, l'accent sur la justice sociale, le fait que ses ministres, ses fidèles se sont beaucoup vérifiés par rapport à qu'est-ce que c'est qu'on appelle la justice sociale dans le cadre de la gestion, de la mitigation, de l'anticipation du chaos écologique et du chaos climatique. C'est une question que je nous adresse, nous, ici, là, en Église et en religion. Est-ce que c'est la justice sociale sur le mode marxien, n'est-ce pas ? On sait ce à quoi elle aboutit, hein, les modèles afghans, les modèles chinois, même s'il y a des revirements présumés. Et là, il y a un témoignage et une mise en pratique de la justice sociale dans laquelle, bien Laudato Si, nous l'avons reçue une fois de plus comme si elle émanait de notre propre héritage. Alors évidemment, rien n'est facile. En France, j'ai parmi mes fidèles, j'étais prêtre de paroisse, recteur pendant 18 ans, il y avait des gens de l'agrobiologie. Alors évidemment, naturellement, les choses se passaient très bien. Il y a une culture assez spontanée de la culture du végétal, de l'respect de la chair animale et du produit issu des filières laitières. Mais nous avions aussi des gens du monde agricole qui vivaient le fait qu'ils restaient sur le logiciel des années 70 avec les OGM, le productivisme, les fungicides, dont on sait que c'est un logiciel complètement périmé et qui pourrit le discours d'ailleurs politique au jour d'aujourd'hui, parce que les postures elles perdurent, elles naissent et elles perdurent à partir du moment où on reste sur des référentiels qui sont tristes et périmés parce qu'ils ont fait la preuve ailleurs de leur inefficacité. Que faire ? Nous devons faire avec, surtout lorsqu'il y a des victimes et là aussi de la fragilité, de la vulnérabilité. Mais il y a une sorte de mouvement à la fois incompressible et paisible qui nous fait sentir véritablement œcuménique et assurément interreligieux sur, de toute façon, une relation à la nature qui est désormais obligatoire. Avec les scientifiques, les écologues, nous venons de produire, si ça vous intéresse, je vous passerai le lien ou le deuil lorsqu'il paraîtra, un séminaire dans une revue américaine scientifique, et même la revue Science vient de l'annoncer, où nous faisons avec des économistes, des écologues, un nouveau paradigme. Nous proposons un nouveau paradigme de la relation de la recherche scientifique par rapport à la nature, avec le vivre avec, vivre dans, vivre à travers et vivre pour. Et nous donnons des exemples qui sont issus de nos propres expériences et de nos propres perspectives. Il y a une sorte de renouvellement aussi de la pensée scientifique qui nous dit qu'on est capable, en planète, dans les limites planétaires, c'est-à-dire de celle qui quand même adresse au jour d'aujourd'hui la question de la survie de l'espèce humaine, dont la Terre pourra se remettre. En 300 ans, les choses pourraient se recomposer. Mais nous en sommes quand même malheureusement un peu là. Nous dit que rien n'est perdu et que l'espérance nous est convocable, et non seulement elle nous est convocable, mais je pense que nous sommes là pour y répondre. Merci.
Merci. Oui, la crise que nous connaissons, la crise environnementale, c'est avant tout une crise spirituelle. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Et ce n'est pas un dysfonctionnement du modèle de développement qui s'est imposé d'abord en Occident et puis maintenant sur la Terre entière depuis deux ou trois siècles. C'est vraiment inhérent à ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle extractiviste, productiviste, qui propage l'illusion d'un progrès sans fin, alors que le monde a des ressources finies. Donc il y a quelque chose qu'un enfant peut comprendre, mais on a entretenu l'illusion que ça pouvait marcher de façon indéfinie et que tout le monde allait profiter de ces ressources-là à la fin. Donc il y a une double illusion, l'illusion que on on pouvait continuer à taper dans le stock de la nature sans limite et l'illusion que tout le monde finirait par en profiter, que finalement tout le monde deviendrait riche, certains plus tôt, certains plus tard. Alors ça, c'est un mensonge, en fait, c'est une illusion terrible, tragique, et la crise écologique est juste le retour de la réalité que nous prenons en pleine face pour avoir oublié cela. Alors, les pays dits musulmans, enfin, mettons les pays de l'Organisation de la coopération islamique, sont souvent des pays en voie de développement ou des pays émergents qui construisent péniblement un développement, qui sont, comme vous l'avez dit, souvent les premières victimes des industries minières, etc., qui polluent de façon absolument dramatique la terre, l'eau, l'atmosphère, etc. Et donc, on se trouve dans une situation terrible où ces pays, évidemment, voudraient assurer un minimum de développement. Malheureusement, ce développement sur le modèle occidental ne peut pas se faire, sinon, évidemment, la planète est complètement détruite encore plus vite. Donc, il y a une injustice qui se manifeste là. Et évidemment, la sortie de l'out of aussi, de l'écologie intégrale, du respect de la nature conjoint aux soucis des plus pauvres, des plus vulnérables, c'est exactement ce que notre tradition musulmane, nos traditions au sein de l'islam nous enseignent. Donc il y a eu une sorte de reconnaissance. Alors vous avez parlé de la figure de François qui nous est particulièrement chère, hein, comme étant à la fois celui qui a le souci des pauvres, le souci de la nature, et vous avez montré que ce n'était pas du tout anecdotique, que c'était vraiment ancré au plus profond de la foi de François et de la foi monothéiste, et puis ce moment extraordinaire de l'entrevue de Damiette avec le sultan Al-Malik Al-Kamil, qui est un des grands moments de dialogue interreligieux, même si on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais voilà, ça a laissé une trace très profonde dans notre mémoire. Alors, qu'un pape appelé François sorte une encyclique aussi riche, aussi profonde, ça nous a beaucoup touchés. Je l'ai reparcouru, là, justement, pour revenir, je me dis, mais vraiment, évidemment, à la fin, il y a des affirmations de théologie chrétienne infiniment respectables, et nous respectons, mais pour l'essentiel, toute l'analyse qui est faite, l'analyse intellectuelle, sociale, politique, scientifique, théologique qui est faite dans l'Aoudat aussi, a pu être vraiment signée par les musulmans. Et donc c'était une grande satisfaction de voir cela, et ça a aussi donné un élan, je pense, dans les mosquées, les centres culturels islamiques. Moi, j'ai participé à un certain nombre de manifestations à la mosquée de Paris ou à la mosquée de Lyon sur ce thème-là, parce qu'on disait, voilà, il y a eu la Laudato si, maintenant, qu'est-ce que nous, on a à dire là-dessus? Alors, il se trouve qu'en 2015, il y a eu une réunion à Istanbul d'un certain nombre d'universitaires, scientifiques et théologiens musulmans qui ont publié une déclaration islamique internationale sur le changement climatique global. Et cette première déclaration, on pourrait dire que c'est une sorte de première version de cette étude qui s'appelle Al-Mizan. Donc Al-Mizan, c'est un mot arabe qui signifie la balance. C'est un terme coranique, c'est-à-dire que c'est un mot qui arrive dans la révélation pour traduire à la fois le souci d'équilibre, de justice et de mesure, hein. C'est tout ça, Al-Mizan, c'est-à-dire qu'il faut respecter la balance, c'est-à-dire respecter la justice, l'équité, et respecter la mesure dans chaque chose. Et c'est le titre qui a été choisi par les rédacteurs de cette encyclique, on pourrait dire, parce que à la fois dans le format, effectivement, d'à peu près une centaine de pages, hein, dans le déroulement de l'encyclique qui part d'une analyse scientifique, c'est pas du tout un texte uniquement théologique, c'est comme dans la Laudato si, il y a une constatation scientifique avec des éléments chiffrés, effectivement, de la nature de la crise, une interrogation sur ses racines, et puis ensuite des propositions de valeurs qui si elles étaient mises en œuvre, pourraient aider à passer ce cap terrible, cette crise, et à surmonter la crise dans une démarche d'espoir et non pas du tout de catastrophisme ou de millénarisme ou de film catastrophe à la mode hollywoodienne. On est au contraire dans l'idée de la responsabilité de chacun et de chacune. Évidemment, ce n'est pas facile à faire parce qu'il y a une dimension, vous l'avez dit, il y a une dimension personnelle où on peut faire des choses, et il y a une dimension systémique où on se trouve absolument démunis, comme une sorte de machine. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est le char de Juggernaut. C'est un terme indien, vous avez dû probablement voir ça dans le sud de l'Inde, ce sont des chars monumentaux sur lesquels il y a toutes les divinités, bon, qui sont toutes des manifestations du Brahman, donc du Dieu unique, mais qui sont entassés, et ce char est un poids absolument terrible. Une fois qu'il est mis en mouvement, il ne peut plus s'arrêter. Et donc on est un peu le capitalisme ou l'extractivisme, parce que du côté communiste c'était pas beaucoup mieux, on l'avait vécu en Roumanie, mais l'extractivisme, le productivisme, c'est une sorte de machine, plus personne ne sait arrêter la machine. Et donc ça c'est un motif d'inquiétude, parce qu'on se dit moi je peux faire quelque chose, c'est la stratégie du colibri, mais comment peut-on arrêter le système? Alors c'est vrai que on n'est pas simplement des croyants, mais on est aussi des citoyens, on est aussi des consommateurs, et donc on peut aussi agir sur ce plan, et il faut l'agir, donc il y a une dimension politique. Alors voilà, ce texte d'Albizane, pour terminer, il est vraiment très beau, je ne sais pas s'il est aussi beau que Laudato si, mais il est quand même très profond. Il commence par « Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur des mondes », c'est vraiment la Laudato si, soit Dieu, autant de fois que les étoiles dans le ciel, que les grains de sable sur la plage, etc. Donc il y a une dimension poétique aussi qui est assez belle. Et je pense qu'il va être utilisé dans les mosquées, dans les centres culturels musulmans, comme vraiment le texte de référence pour travailler cette question et sensibiliser les fidèles, qui souvent sont assez modestes, et se sentent encore plus démunis, en quelque sorte, quand ils ont tout juste de quoi manger, pour agir là-dessus. Alors, dernier mot, effectivement, d'où vient ce texte? En fait, c'est une initiative qui a été prise dans le cadre du programme qui s'appelle « La foi pour la terre ». Je ne connaissais pas ça, je n'ai pas pris ça en disant Misen, justement, du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est une initiative à l'international, interétatique, on pourrait dire, qui s'est déclinée ensuite avec différents acteurs, dont l'ICESCO, qui est, on pourrait dire, l'UNESCO islamique, qui est la partie culturelle de l'Organisation de la coopération islamique. Et donc, il y a toute une série de contributeurs. Donc, ce n'est pas du tout une œuvre, enfin, je sais que le pape François, probablement, aussi un petit peu d'aide, mais c'était vraiment son initiative. Là, c'est une initiative très collective. Très international, qui sera relayé dans différents pays, et je pense que peut-être que dans 10 ans, on fêtera aussi les 20 ans de la Laudato si et les 10 ans de Albizane.
Pourquoi pas.
Merci, je ne sais pas si vous voulez réagir ou peut-être faire pendant 3 ans à la conférence des évêques, pendant les sessions plénières, vous avez discuté de ces questions, des questions d'écologie intégrale. Quelles leçons vous en avez tirées? Finalement, moi j'ai quand même senti qu'il n'y a pas eu de grandes déclarations. Il y a des différences d'engagement dans les diocèses.
Alors, moi je ne sais pas trop à quelles différences d'engagement vous faites allusion. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale, que la Laudato si a été reçue comme un texte important. Mais attention, pour nous, même catholiques, un texte pontifical, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est le Christ, et notre référence, c'est la parole de Dieu. En revanche, un texte pontifical est un texte d'approfondissement, d'accélération. Et donc, le plus important n'est pas le texte lui-même, mais la manière dont il est reçu et dont il vient transformer la manière de vivre, de croire aussi et de partager la foi. Alors, en effet, avec la conférence d'évêques, en particulier le conseil permanent qui commençait il y a 7 ans autour de la présidence d'Aiguemin Beaufort, nous voulions avoir un peu un texte de travail durable et qui nous permette de traiter en l'approfondissant et aussi, avant même que ce soit la proposition du pape François de manière, disons, synodale, une grande question missionnaire. Et donc c'était notre toute première réunion de ce conseil permanent dont je faisais partie, moi je suis parti pendant 6 ans, et nous nous sommes dit c'est la question environnementale. Et donc nous nous sommes lancés dans 3 ans, c'est-à-dire donc 6 assemblées, avec des temps de réflexion, un peu d'abord en écoutant des militants de l'écologie nous secouer, ensuite l'écologie et l'agriculture, donc en la fois des agriculteurs qui se sont mis à faire de l'agriculture intensive parce que c'était des prescriptions assez impératives des autorités publiques en France et aussi liées à la nécessité du moment, et puis d'autres se lançant dans des nouveaux modes d'agriculture plus vertueux, mais aussi l'industrie, mais aussi les relations internationales. Et ça a été très intéressant, très important. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs ont participé, puisqu'il y a eu des laïcs, des diacres, des religieux qui ont été associés à ce travail. Vraiment très intéressant et fructueux, mais qui n'a pas abouti, disons, à quelques déterminations, pas des grandes déclarations, mais quelques déterminations un peu opérationnelles que nous souhaitions pouvoir nous donner. Je pense que c'est plus pour des raisons opérationnelles que pour des raisons de fond. Je le dis très simplement, l'équipe qui était chargée de faire aboutir ce processus, qui a été, c'est vrai, aussi compliqué par le Covid, n'a pas, à mon avis, pris les bons moyens pour que nous puissions aboutir, et j'en ai été personnellement vraiment triste. Et ça m'amène à 2 réflexions sur la question présente du rapport à l'écologie et sur les prolongements. D'ailleurs, le pape Léon a déjà commencé à reprendre cette question très au sérieux. D'abord, je crois que c'est une question qui a encore besoin d'approfondissement théologique. Il y a des choses très intéressantes dans le pape aussi, mais je pense qu'on n'a pas encore été jusqu'à une vraie richesse de théologie écologique. Alors, nous avons eu un moment écuménique dans ce travail. D'ailleurs, je crois que c'est le père Serge Sologoub qui avait pris la parole devant l'Assemblée. Et de manière très, très belle et très stimulante. Personnellement, j'ai trouvé que des catholiques, pourtant très patentés, qui ont pris la parole devant nous, peinaient à produire une richesse suffisante de vision théologique et surtout, un peu dans l'esprit de saint François, d'intégration sotériologique, la question du salut avec l'écologie. Je veux dire que ce que j'ai trouvé le plus stimulant, ça a été l'intervention de Martin Kopp.
Bien sûr.
L'éco-théologien de la Fédération protestante.
Martin, c'est quelque chose.
Alors, avec Martin, on n'est pas toujours d'accord. Je vais y revenir sur la question opérationnelle. Il a voulu que j'aille avec lui faire je ne sais quelle manifestation devant je ne sais quelle entreprise. Enfin, je sais bien quelle entreprise d'ailleurs. Voilà. Je vais vous faire un déjeuner avant sa manifestation. C'est déjà ma contribution. Mais j'ai trouvé très intéressant l'exposé qui a fait Martin Kopp, et je pense que, comme ancien prof de théologie, j'ai la faiblesse de penser que quand les questions sont vraiment approfondies sur le plan intellectuel en général, et théologique en particulier, eh bien, on a davantage de chances d'être ajusté concrètement. Et puis la deuxième chose quand même, et ça rejoint une réflexion que nous menons ici régulièrement avec François, comme jusqu'à maintenant délégué diocésain à l'écologie intégrale, et puis maintenant Yann qui va le prendre, Bouchard qui va reprendre ça à la suite, où nous rassemblons régulièrement ici, et c'est le fruit de l'interpellation de jeunes militants chrétiens écologistes, assez tonique, des représentants de grandes entreprises de la défense, qui ont participé avec les énergies fossiles, et des militants intellectuels chrétiens de l'écologie, pour essayer de les faire dialoguer, et de parvenir à peut-être une expression commune. C'est pas facile du tout, Mais l'aventure, non seulement mérite d'être tentée, mais doit être tentée. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, et on voit bien en discutant avec eux, que beaucoup de questions en matière de progrès écologique et de contribution chrétienne au progrès écologique tient à la question des processus de décision, de gouvernance, de discernement partagé. Et voilà, vous évoquiez les COP, votre mari était la première. La COP 21, d'ailleurs, a été débloquée à la fin. C'est ce qui a réconcilié François Hollande avec la papauté par le pape François. Et les relations qu'il pouvait, par personne interposée, avoir avec le Venezuela en particulier. Et aujourd'hui, les chrétiens veulent se mobiliser pour la COP 30. Mais en fait, le processus est grippé. Parce que, globalement, la diplomatie multilatérale est grippée. Et on ne voit que trop autour des grands conflits actuels. Et donc, je pense que ce n'est pas sortir du sujet que de dire que je crois que nos églises, les religions, doivent pouvoir se mobiliser à tous les niveaux d'intervention possibles pour que nous retrouvions un peu plus ou un minimum de gouvernance multilatérale suffisante pour pouvoir, notamment dans ce domaine essentiel, avancer un peu.
Juste pour rebondir sur les questions œcuméniques et interreligieuses et ce que cela permet de changer et de vivre, j'ai devant moi Laurence Rosenzweig, qui est de la paroisse catholique de Courbevoie, ou une des paroisses catholiques de Courbevoie, et nous avons travaillé ensemble. Je ne sais pas pourquoi la petite église protestante à Courbevoie, qui avait déjà un petit groupe église verte, est devenue un peu symbolique.
Petite église, mais pasteur remarquable.
Non. Mais c'est intéressant de voir ce qui peut s'y vivre. Et puis, le travail de personnes comme Martin Kopp, que je connais très bien, fait que, voilà, on reçoit un appel, ou moi, je reçois un appel. Il dit, Jane, nous arrivons avec les représentants Green Faith, et j'ai la délégation chrétienne, et on peut venir faire le culte chez toi. Et puis je me retrouve dans la situation assez compliquée où finalement c'est un évêque à la retraite, anglican, qui ne veut pas non plus entendre parler du sacerdoce des femmes, mais qui se retrouve autour de la table de communion de notre hôtel avec moi, et puis qui ne prend bien sûr pas la communion, mais qui ensuite, nous sommes ensemble devant la tour totale à la Défense 2 jours plus tard. Voilà, bon, ça, on peut ou ne pas vouloir faire ça, mais je me dis, il y a aussi, je descends à une autre occasion où Martin dit, on a besoin d'un lieu pour avoir un café, pour se rassembler, on peut venir chez toi. Je dis, ok, je suis actuellement présidente du conseil presbytéral, alors je vais dire oui, c'est bon, je ne vais pas devoir parler avec quelqu'un d'autre pour l'instant, et encore je devrais, mais bon. Et du coup, je descends le lendemain matin et je découvre un évêque catholique devant la porte de notre église, Marc Stinger, bien sûr. Voilà. Et je pense que c'est assez intéressant ensuite de voir ce qui est possible de vivre selon nos différentes vocations religieuses, ecclésiales, etc. Et il nous faut les uns les autres, vraiment, pour essayer d'avoir un va-et-vient pour apprendre les uns des autres, pour s'encourager aussi les uns les autres. Ce n'est pas, nous faisons relativement peu de choses. L'Église verte est un tout petit peu en veilleuse dans notre paroisse en ce moment, et encore, ça va sans doute pouvoir revivre. Mais c'est aussi, ça me tient à cœur parce que tout le travail autour de la COP 21 a donné lieu aussi, a donné naissance à l'Église verte en France. Ce sont des choses qui existent dans d'autres pays depuis très longtemps. Et je remarque combien dans le protestant ou dans les protestantismes français actuels, le thème est vraiment repris par les églises évangéliques en ce moment. Il y a 3 ans, j'étais à un grand rassemblement évangélique où clairement j'ai entendu dire « Oui, mais les catholiques sont vraiment en train de rentrer là-dedans, il faut absolument qu'on essaye de prendre le flambeau. » Et je trouve ça assez intéressant, surtout que là aussi, dans le monde évangélique, il y a les fondations, ou la fondation Arocha, qui travaille dans ce domaine de façon très spirituelle, très théologique et très engagée depuis des décennies déjà. Et du coup, on est en train de découvrir que cette tradition est là dans toutes nos différentes, nos différentes fois, on peut dire comme ça. Et je pense que c'est vraiment très important de savoir ça et d'essayer de vivre quand on ne trouve pas forcément un écho dans sa propre église ou sa propre paroisse, de savoir qu'il y a peut-être un appui ailleurs, et aussi de savoir aller avec humilité. Je ne suis pas hyper, hyper écologique dans ma pratique. J'essaye toujours, bien sûr. Nous ne sommes pas parfaites. Nous sommes aussi des... Voilà, je suis consommatrice, hein. C'est clair. Mais c'est aussi très important de laisser place aux personnes là où ils sont et puis de savoir que même si le colibri n'est peut-être plus adapté à notre époque, car les choses sont urgentes, nous avons besoin de continuer dans l'espérance que finalement chaque petit pas que nous prenons vaut la peine.
J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je trouve que l'Église verte, c'est quand même quelque chose qui mérite un grand acteur écologique m'avait dit, il faut célébrer les victoires, c'est très important pour avancer. L'Église verte, c'est vraiment un processus remarquable, et qui est un lieu de pas uniquement de dialogue, mais de partage de la pratique écuménique, et puis qui en plus est très, très bien pensé sur le plan... sur le plan du lien entre l'engagement spirituel, les relations humaines, l'écologie intégrale, et puis il y a une pédagogie, et puis c'est même pensé de manière joyeuse et stimulante. Dans le diocèse, on a combien de paroisses, François ?
32
paroisses églises vertes. Et alors Yann va continuer à déployer ça, mais aussi les écoles catholiques, l'évêché, et on avance pas à pas, et ça demande, c'est réjouissant en fait de voir qu'on peut faire des choses, pas uniquement individuelles, mais quand une communauté tout entière travaille à des questions d'isolation, de plein d'éléments de pratique. Et donc c'est, alors il faut trouver aussi la persévérant dans la bonne gouvernance écuménique pour la France de ce projet, mais c'est très très important, très réjouissant, et d'ailleurs ça pourrait aussi, je pense, faire école dans d'autres pays qui n'ont pas cet instrument, mais voilà, les réussites ne sont pas si nombreuses que cela, et donc voilà, c'est quelque chose de très réussi et de très prometteur.
Il y a un Martin Kopp catholique, hein, et il s'appelle Guillermo Kerber. Et il était responsable pendant presque 10 ans au Conseil œcuménique des Églises du programme pour la sauvegarde de la création. Il est basé en Suisse, il doit avoir peut-être pas tout à fait 68 ans ou quelque chose comme ça. C'est un personnage et il connaît l'affaire et il est aussi il est très sympa.
Merci beaucoup. Après, je voudrais que l'assistance puisse vous poser quelques questions, peut-être.
Je me posais aussi la question de nos engagements en tant qu'hommes et femmes de foi, mais pas forcément missionnés par nos églises dans des projets toujours difficiles, mais toujours porteurs d'espoir écologique eux-mêmes les plus vertueux possibles. C'est encore autre chose, c'est sans doute peut-être à habiter. Je pense à un projet qui me tient personnellement à cœur, dans lequel je suis un des pilotes, avec d'ailleurs un dominicain québécois et puis un jésuite allemand. Mais nous y sommes. nous ne faisons pas état de notre foi, mais nous sommes posés dans ce projet en tant qu'engagés dans un chemin de foi qui s'appelle la Grande Muraille Verte, qui est vous le connaissez, un projet porté par les Africains, les États africains, et notamment l'Université Charenta Diop de Dakar, et puis le CNRS du côté français, qui reste en moteur en la matière, et qui s'attache au reverdissement, scientifiquement on dit le reverdissement des zones steppiques sahéliennes, c'est le reboisement de toutes les zones désertiques du Sahel, dans des zones de conflit, dans des zones qui sont vraiment soumises au poids de la désertification, à cause en partie majeure désormais du chaos climatique, et qui sont les lieux de tragique émergence de la migration climatique, qui est déjà en place. Donc ce projet s'est engagé dans ce reboisement, avec des travaux assez intéressants de botanique pour choisir les espèces en question, et avec beaucoup de pugnacité et de naïveté peut-être, mais encadré avec une démarche aussi scientifique. Et la justice sociale y est omniprésente, parce que ce sont des pays où, par définition, on tente de faire des choses parce qu'on nous a dit que c'était impossible. Donc nous y allons, plus que jamais. Et où il y a des guerres, des conflits, où il y a des vulnérabilités par stigmatisation, des femmes en premier, de toutes sortes de minorités en second, et où la restauration de la vulnérabilité des populations vulnérables vers davantage de dignité et de vie sociale est un souci aussi cardinal que celui de la décarbonation des espaces en question et de la limitation de l'immigration climatique. Et pour le moment, il y a entre le Sénégal et puis la frontière malienne, car au Mali, c'est encore possible de travailler, il y a une distance comparable entre la Belgique et puis la zone de la Roure, peut-être, ce qui est quand même pas rien à l'échelon du continent. Le Tchad fait un travail absolument formidable, et puis l'Éthiopie. Et dans chaque strate, le fait religieux est rencontré et convoqué, que ce soit la confrérie des Tidjanes au Sénégal, qui font un travail absolument extraordinaire, qui prient avec nous, qui sont des protagonistes de l'acceptation de l'évaluation, de l'intervention et de son évaluation, les églises éthiopiennes, catholiques et orthodoxes, qui célèbrent chaque temps de reboisement à la faveur du rythme du temps liturgique. Et tout ça est sans doute très difficile, très humble, mais là aussi porteur d'espérance, avec à chaque strate, par exemple, la sollicitation des femmes, des associations de femmes qui vont gérer le fruit de la production de ce qui est reboisé, notamment de la fameuse bananatide, et aussi qui vont servir de vecteur vis-à-vis des jeunes qui seraient tentés par des espérances d'émigrer, et aussi d'apporter de la consolation aux marques encore plus violentes que chez nous du réchauffement climatique, notamment ce qui s'est passé il y a un an et demi au Tchad avec des inondations comme nous n'en avions vu. Voilà, il y a aussi ces initiatives dans lesquelles l'engagement dans la foi, sans être dans l'ostentation, peut être signifié, et humblement mais fermement.
Merci. On approche la fin. Je ne voudrais pas frustrer les membres de la science qui ont envie de poser quelques questions. J'ai vu une ou deux mains se lever.
J'avais tout de suite évoqué une zone où j'ai beaucoup travaillé, et je voudrais dire que ça ne va pas sans grosses difficultés. À Kaye au Mali, l'imam vient d'être assassiné il y a très peu de temps. Ça, on le sait très bien. Et il a été assassiné parce qu'il était considéré à Tidjane. Et il était considéré par ceux qui arrivaient du nord-est du Mali, il a été considéré comme étant trop tiède.
Merci.
Jane Yoki, donc les premières COP, on en est à la COP 30, la prochaine au Brésil. Et à cette occasion, la congrégation jésuite, avec d'autres congrégations, a lancé un plaidoyer pour la justice climatique, qui englobe bien sûr la justice sociale aussi. Comment est-ce que les différentes églises, là dont vous êtes représentant, comment vous pouvez être un relais de ce plaidoyer ?
Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais je pense qu'au Brésil, les églises œuvrent ensemble et nous devons essayer de... Voilà, je pense que, par exemple, le Conseil d'Église chrétienne en France, il faut demander au co-secrétaire, c'est plus moi, du coup je peux demander à d'autres à travailler, il faut faire ça à ce niveau-là, et puis il faut essayer de le faire descendre et remonter. Moi, je conseille à faire quelque chose à ce niveau-là, parce qu'il y a un relais ensuite, vraiment. Et cela sera repris dans La Croix, qui est un excellent journal, auquel je suis abonnée. Voilà, et puis dans les autres médias aussi. Et il faut trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement le reprendre dans le journal, dans les autres journaux, dans Le Figaro ou dans Le Monde. C'est ce que je suggère.
Voilà. Il y a un texte en cours. Voilà. Il y a plusieurs versions d'un texte en cours qui devrait être partagé bientôt.
C'est vraiment un souci courant du CSFA, du Conseil d'Église chrétienne en France.
Et du CSCF
aussi. Oui, et de la CSCF.
Alors vous avez dit que ça se passe au Brésil, donc il y a aussi une mobilisation locale. Un exemple qui a été intéressant récemment, c'est le sommet des océans qui a eu lieu à Nice, qui aspire d'ailleurs à entrer un peu dans le rythme des COP, et où il y a eu beaucoup de choses importantes, et notamment il y a eu une présence pour l'Église catholique au plus haut niveau, puisque le cardinal secrétaire d'État est venu et a pris la parole.
Bonsoir, merci pour toute cette richesse, là, on apprend beaucoup. Moi j'avais une question face à un phénomène qu'on voit maintenant aussi plutôt dans la jeunesse, sur le phénomène que l'être humain est nuisible, qu'il est en très grand nombre sur Terre, un peu antinomique avec ce qu'on porte par notre foi bien sûr. Ça peut même aller jusqu'à des difficultés de discussion sur le pilier de la fécondité dans le mariage, où on commence à avoir des couples qui disent sur cette terre à nous deux oui, mais on n'ira pas plus loin, parce que l'homme porte la création d'une façon plutôt négative. Et ma question, c'est dans vos différentes églises ou communautés, comment vous envisagez ce message d'espoir de l'être humain, non pas nuisible, mais partie prenante de la création, pour continuer à être sur cette terre de façon harmonieuse dans la vie avec la nature.
Je vais dire un tout petit mot. Ce qui me frappe, c'est que cette question, de fait, elle est très présente, et certains d'entre vous y ont participé. Nous rassemblons dans le diocèse, en général, 700 fiancés une fois par an, pour une journée de réflexion et de partage, de témoignage et de prière. Et au cours de cette journée, il y a toujours des questions libres adressées à l'évêque, en l'occurrence, et à un couple. Et il y a 3-4 ans, cette question venait toujours. Je me préparais à y répondre. Et les deux dernières années, elle n'est pas venue. Donc c'est peut-être le hasard, mais c'est quand même un assez grand nombre de couples extrêmement variés quant au degré d'appartenance chrétienne. Et donc, peut-être que les choses bougent un petit peu. Après, je pense que c'est quand même la richesse de la notion d'écologie intégrale ou d'écologie humaine, c'est qu'il n'y a pas de juste prise en compte de l'environnement s'il n'y a pas une place de choix donnée au respect de la dignité humaine. Et pour comprendre notamment qu'il n'y a pas de concurrence entre la vie, que la personne humaine comme telle n'est pas un danger pour la planète, disons, mais au contraire, que la vocation humaine est de veiller sur la planète. Et donc il y a arrivé à réinstaurer le cercle vertueux de la vie humaine et de l'environnement.
Merci.
juste pour dire, moi-même, je n'ai pas d'enfant. Et je pense que nous vivons maintenant devant le fait qu'il n'y a pas assez de jeunes générations dans beaucoup de nos pays. Et cela est aussi une crise, et c'est une crise d'espérance aussi. Hein. Et je pense que quand la demande me vient, je réponds, si vous avez envie d'avoir des enfants, il faut essayer d'avoir des enfants. Et je pense que c'est aussi une question beaucoup plus large, où finalement, il y a beaucoup de pression dans notre société sur les jeunes ménages pour... est-ce qu'on va pouvoir avoir assez d'argent pour acheter une maison, est-ce que, etc. C'est beaucoup plus ces questions-là, et je pense que la question environnementale vient aussi, mais pour moi, la question que j'entends beaucoup plus, c'est est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes subvenir aux besoins des enfants qui vont naître.
Oui.
C'est en effet pluriel avec des projets d'enfants qui, dans nos familles, même dans le monde orthodoxe, ont tendance à être un peu différés dans le temps aussi. Donc, les temps et les mentalités ont un peu épousé cette pression du monde qui nous met devant la rentabilité, la productivité, le succès à tout prix. Mais je trouve personnellement, moi aussi en tant que pasteur, cette question, presque cette plainte, un peu moins prégnante qu'il y a quelques années. Et puis, sans faire de la rhétorique ou des références liturgiques, en effet, l'homme est un être ambigu, mais il est capable aussi de composer des pièces de musique, de désendeuiller la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu le visites? Et nous avons les moyens, surtout dans les périmètres chrétiens et religieux, de rassurer nos enfants à ce sujet.
Il y a quelque chose de fondamentalement mystérieux dans l'aventure humaine, hein, un mystère sublime. Je fais allusion tout à l'heure au récit coranique où, alors que les anges évidemment passent leur temps à adorer Dieu, à proclamer sa gloire et sa louange, voilà, que Dieu veut créer quelque chose d'autre. Et les anges savent très bien ce qui va se passer. Il va se passer corruption et violence, mais Dieu a un plan. Et il sait ce que les anges ne savent pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Mais ce que nous ne savons pas non plus, nous-mêmes, quel est le fin mot de l'aventure humaine? Et l'être humain, comme ça a été dit par Mgr Rouget, est là pour protéger, il est là pour veiller à la création. Donc je crois qu'on doit transmettre à nos enfants cette idée que l'être humain est effectivement capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. C'est ça l'espérance. C'est Dieu ça a comme nom al-mu'min, le croyant. De même que l'être humain est aussi mu'min, il est aussi croyant. Et on peut se demander en qui croit Dieu. Et Dieu croit en l'homme, Dieu croit en l'être humain, en la capacité que, après toute cette trajectoire, en fait, parfois d'horreur, mais aussi de splendeur, eh bien, l'humanité arrivera à bon port. Et chacun d'entre nous arrivera à bon port. Hein. Et c'est ce message d'espérance qu'il faut transmettre à nos enfants. Moi, j'ai deux fils qui me posent ce genre de questions, et même j'en ai un qui est passé par ce stade-là, là dont vous parlez. À quoi bon, je ne peux pas d'enfants, donc j'espère qu'il y en aura, parce que je ne suis pas encore grand-père. Mais l'un et l'autre ont décidé de prendre des premières actions. Donc, j'ai un végétarien à la maison, un vegan à la maison. On a complètement changé la façon de faire la cuisine. Petit geste, hein, mais... c'est comme ça. Il y a beaucoup de raisons d'espérer. Et En général, ce qui produit le désespoir, c'est l'inaction. Parce que le fait de faire quelque chose, même modestement, c'est une, je ne dis pas que c'est une satisfaction, parce qu'on mesure évidemment la distance entre ce qu'on fait et ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais ça nous sort de cette espèce de sidération néfaste dans laquelle on est tous plongés, pour nous dire, non, si tout le monde s'y met, on va peu avancer. Donc, je pense que nos enfants ont un grand rôle pour cela. Je leur dis parfois, quelle chance vous avez ? Comment ça, papa ? Quelle chance vous avez ? Parce que s'il n'y avait pas eu la crise écologique, qu'est-ce qu'on vous promet ? Le diplôme, le plan d'épargne logement, la voiture, voilà, de quelle couleur va-t-on décorer la chambre de nos enfants ? Alors là, vous avez quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant à faire. Vous avez une mission pour sauver l'humanité. Alors, pas sauver la planète, puisque je suis bien d'accord avec vous, la planète, elle s'en tirera très bien. Elle a eu déjà plusieurs impacts d'astéroïdes. Elle a toujours redémarré, mais l'humanité est très en danger, et en particulier les populations vulnérables du Sud, parce que par quelques décennies, même moins que ça, il y a des zones entières de la Terre qui seront invivables pendant des durées assez longues de l'année. Donc, nous devons sauver l'humanité, et nous ne pouvons pas nous replier de façon égoïste, comme malheureusement c'est en train de se dessiner dans les pays du Nord, hein, en disant on va mettre une grande barrière, et puis ceux qui sont au sud de la barrière, ils se débrouilleront. Hein. Ça, c'était monstrueux, parce que, effectivement, l'humanité est en danger de vie, mais elle peut aussi perdre son âme dans cette crise écologique si les plus riches se mettent chez eux en fermant les portes et refusent de tendre la main à ceux qui sont en difficulté. Donc il y a un grand espoir à transmettre à nos enfants, hein, cet espoir de justement devoir faire quelque chose.
Mais, merci beaucoup à tous quatre. En fait, voilà, en vous entendant ces dernières interventions, ça fait écho pour moi à une des phrases dans les dernières, je crois, presque la conclusion de Laudato aussi. Le pape François écrivait que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.